Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici cette tâche nationale.
I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Bienvenue dans la grande finale de la première édition du concours d'éloquence du cours Maintenant. Nous sommes le mardi 11 février au CDI, en public, et il est 18h. Depuis le mois de décembre, une vingtaine d'élèves de première et terminale se sont affrontés sur des sujets aussi divers que Internet favorise-t-il la citoyenneté? L'homme est-il bon ou mauvais par nature? L'homme est-il néfaste à son environnement? Le progrès sans limite est-il une bonne chose? Après des demi-finales serrées, Axel, terminal L, et Adrien, terminal S1, se sont brillamment qualifiés pour la finale. Veuillez les accueillir comme il se doit. Ainsi que notre jury, mesdames Legrand, Mariani, Mayoussier, Spinek et Monsieur Lacroix. Aujourd'hui, nos deux finalistes vont devoir faire le procès du loup. Je vous rappelle le règlement, vous avez 5 minutes chacun pour exposer votre argumentation, puis le jury aura 5 minutes pour vous interroger. A noter que si vous dépassez les 5 minutes ou si vous faites moins de 4 minutes, vous recevrez un malus. Un tirage au sort a été effectué et c'est Axel qui jouera le rôle de l'avocate de la défense et Adrien, celui du procureur. Mademoiselle, monsieur, bonne chance. Adrien, c'est à toi.
Bonjour à tous, mesdames, messieurs de l'Assemblée, du jury et madame l'avocate. Nous sommes réunis ici pour faire le procès d'un animal bien connu de nous tous et argumenter autour de ses crimes passés, le loup. Rien que son nom est évocateur d'un terrible destin. Le loup, c'est un animal qui inspire la peur et ceci est ancré au plus profond de nous-mêmes. Dès la plus tendre enfance, on nous raconte des histoires sur les loups, qui sont dangereux, qui sont à éviter. Le loup, plus que la menace en elle-même, est l'incarnation de la menace. C'est-à-dire que il est une sorte de vaisseau qui contient la menace et qui est capable de la représenter sous toutes ses formes. On le retrouve ça dans la littérature, bien sûr. Le loup, c'est un animal dangereux. C'est un animal cruel, c'est une bête, c'est l'ennemi. Et ça, on le retrouve dans les contes populaires, comme je l'ai évoqué précédemment, pour les enfants, mais même dans les récits plus argumentatifs. Chez Machiavel, le loup représente ainsi l'ennemi du prince. C'est à la fois l'ennemi du dirigeant, mais aussi l'ennemi du peuple. Et ainsi, le loup est bien évidemment dans l'imaginaire commun, l'incarnation de la menace. Alors la question maintenant, c'est qu'en est-il en réalité? Le loup est-il réellement aussi dangereux qu'on le dit? Eh bien, je vais vous montrer que le loup, plus qu'une bête sanguinaire, est un problème en lui-même. Le loup a toujours été un danger pour les bergers. Donc non seulement pour des êtres chétifs et en même temps symbole de pureté que sont les brebis, qu'ils dévorent de manière sanguinaire et sournoise, souvent dans la nuit, un élément aussi associé au mal. Mais en plus, ils s'attaquent à ce qui nous tient le plus profondément à cœur, la nourriture, ce qui est essentiel à la vie. Le loup, en quelque sorte, s'attaque directement à la vie et à nos peurs les plus primaires, à la fois de mourir, mais aussi de manquer de nourriture. En même temps, le loup, aujourd'hui, vous me direz que ce n'est plus un grand problème avec les développements de l'agriculture, les progrès qu'on a faits et toute la transition écologique que l'on aimerait poursuivre. Il semblerait naturel de protéger toutes les espèces animales et donc en comprenant ainsi le loup. Cependant, je rappellerai que dans un manifeste publié en 2014 au Salon de l'Agriculture, dix vérités voulaient être rétablies concernant le loup par les agriculteurs. Et en première ligne de cette liste, on ne le rappellera jamais assez, le loup n'est plus un animal en danger. Certes, il l'a été à un moment, mais depuis, dans le monde entier, si on fait le bilan total, le loup n'est plus considéré comme une espèce menacée. C'est une espèce, il me semble, fragile, ou un terme comme ça qui s'applique, mais elle est noyée dans une masse de milliers d'autres espèces qui sont tout aussi dans les mêmes dangers et qui encourent plus des dangers mineurs que de réels problèmes majeurs. Et même en France, on a vu récemment une croissance des populations de loups. Et avec ceci, s'ensuit évidemment une augmentation constante des attaques de troupeaux. Et si ces attaques de troupeaux sont toujours aussi sanguinaires qu'avant, elles n'affectent néanmoins plus autant la production de nourriture qui est si importante à la survie de l'humanité. Toutefois, là où le loup cause les plus grands dommages, et je ne parle pas en dommages totaux, mais en dommages relatifs, émotionnels, mais aussi économiques, ce sont chez les plus faibles. J'ai déjà parlé du fait qu'ils s'attaquaient aux brebis, mais ceux qui râlent le plus contre le loup, ce sont les petits producteurs, les petits agriculteurs. Et moi, j'aimerais que durant ce procès, où certes le loup est accusé et comme nous sommes dans un état de droit, n'est pas présumé coupable, on ne fasse pas non plus le procès de ses victimes. Et il faut rappeler que chaque semaine en France, il y a des agriculteurs qui se suicident, qui trouvent la mort. Alors il y a des tonnes de causes à cela. Il y a bien sûr le manque de considération qu'a l'ensemble de l'industrie envers ces personnes. Mais il y a aussi l'ensemble des aléas qui les touchent. Voir ces brebis qu'on a élevées, avec qui on a vécu, se faire égorger sans n'y pouvoir rien faire, c'est traumatisant pour un agriculteur. Et quand en plus on ajoute à cela le fait qu'il perde une grande partie de ses moyens qui permettent sa survie, parce que c'est réellement de survie qu'il s'agit pour certains agriculteurs, eh bien on peut se demander si une partie de ces suicides n'est pas aussi liée aux attaques du loup. Alors on est chanceux dans notre région, on n'en a pas un si grand nombre d'attaques du loup que ça, mais pourtant, il me semble, il y a quelques semaines, on a recensé une attaque du loup dans le Var. Le loup est en train de progresser. Mais au-delà de ça, j'en ai déjà parlé, le loup est un concept, un vecteur qui se transmet. Le loup, c'est le problème. C'est la méchanceté. Il s'attaque aux plus faibles, il profite. Et au-delà du loup en lui-même, de l'animal, ce que j'aimerais dire par-dessus tout, c'est que le loup est parmi nous. Le loup, c'est aussi l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Le loup, c'est le danger. Le loup, c'est la peur. Le loup, c'est le problème.
Merci Adrien. C'est maintenant au tour d'Axel présenter sa plaidoirie.
Mesdames, messieurs, nous sommes réunis dans ce tribunal car le loup a été désigné. Mais ce soir, le loup floué, vous ne verrez pas. Et l'oublier serait faute grave, car à la loupe, je vais passer tous les mensonges sur l'animal. Non, l'heure du loup n'a pas sonné, et les leurres fous qu'on a donnés paraissent floues dans l'obscurité. Donc laissez-moi vous éclairer. Le loup. Évidemment, avec un nom pareil, il est si facile d'arriver à une conclusion hâtive. Et si nous dépassions les croyances populaires ? Ce n'est pas parce que Charles Perrault retranscrivit il y a plus de 3 siècles qu'un loup mange une fillette et sa grand-mère, que tous les loups mangent des fillettes et des grand-mères. D'ailleurs, il écrit aussi qu'un homme riche, doté d'une barbe bleue, possède un cabinet avec les corps de ses épouses accrochés au mur, mais aussi qu'une princesse est plongée dans un profond sommeil pendant 100 ans parce qu'elle se pique avec un fuseau. Opium en excès ou imagination démesurée, il serait peu perspicace de se fier à ce monsieur pour accabler un être vivant. Il est inconcevable de condamner sans preuve. Et ce dossier en est dépourvu. Sinon, révélez-moi sur quelles statistiques s'appuie-t-on pour accabler le loup ? Qui sait me dire combien de morts font les chiens chaque année dans le monde ? La réponse, je vous la donne, ils ôtent la vie d'environ 30 000 humains. Et les 10 morts qu'occasionne le loup sont un débat de société ? Ah mais, le chien est le meilleur ami de l'homme, nous ne pourrions pas nous en passer. Mais s'il faut éradiquer toutes les espèces qui n'améliorent pas visiblement votre quotidien, il n'en resterait que très peu. Il est vrai. Pourquoi ne pas se passer alors des lémuriens, des okapis, des hyènes, des escargots, des paresseux ? À ce rythme, on supprime des dizaines de milliers d'espèces. Mais si ça ne dérange personne, alors... Enfin, ce n'est pas cohérent. Je suis donc la seule à voir que des histoires l'ont stigmatisé, caricaturé, et finalement condamné. Mon client n'est pas un criminel. En réalité, il est victime. victime d'une réputation, nourrie par des contes ou encore des fables, dans lesquels il possède le mauvais rôle. Combien d'exemples pourrais-je citer de groupes victimes d'atrocités sur la base de préjugés ? Le loup n'apparaît même pas dans le classement des 10 animaux les plus meurtriers du monde. Vous voulez condamner le loup ? Que faire alors des 10 premiers ? Et devinez qui possède la médaille d'argent ? Oui, l'homme. Nous qui, à l'heure actuelle, osons nous permettons de remettre en cause l'existence d'une espèce. Quand les nazis sont venus me chercher, je n'ai rien fait. Je n'étais pas communiste. Quand les nazis sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien fait. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Voici un extrait d'une citation de Martin Niemöller, un pasteur allemand, enfermé dans différents camps de concentration de 1937 à 1945 pour avoir refusé de suivre les ordres de nazis. Il est immoral de condamner une espèce. Il est immoral de condamner des animaux parce qu'ils appartiennent à la même espèce. Il est immoral de condamner des gens parce qu'ils possèdent la même nationalité, la même couleur de peau ou les mêmes croyances. Exterminer une espèce ou une population est une limite infranchissable. Qui pourrait tolérer cela ? Si vous aviez été celte, scandinave ou romain, le loup aurait été pour vous un symbole bienfaisant et protecteur des peuples. Alors comment expliquer qu'ici et maintenant, il vous procure un sentiment de peur et de désignation d'un coupable idéal ? Je pourrais évidemment vous parler des côtés vertueux du loup, évoquer Rémus et Romulus, mais alors, il ne serait plus question de principe. Ce serait simplement une joute opposant des pour et des contre pour accabler ou acquitter un groupe. Le principe fondamental de mon plaidoyer est le suivant. Un groupe est hétérogène. Il n'est pas vrai qu'un individu se résume à une case. Condamner dès la naissance un sujet pour cause qu'il fait partie d'un groupe n'est pas moral. Alors mesdames, messieurs, ce soir ce n'est pas simplement le loup que je défends. C'est le principe même de liberté. Non. C'est le principe même de justice, de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations qui nous choquent, que nous trouvons immorales, qui nous révoltent. Accusations trop faciles, désignations injustes de la part du plus grand nombre. Mais comme le disait Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
Merci Axel. C'est au tour du jury de vous interroger.
Axel, est-ce que tu pourrais me raconter l'histoire de Romulus et Rémus ?
Bien sûr. Rémus et Romulus sont deux enfants qui sont abandonnés par leur mère et recueillis par une louve et qui vont être allaités et élevés par une louve, ce qui va permettre leur survie, justement. Et c'est d'ailleurs les fondateurs de Rome. C'est pour ça que l'histoire est très connue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je m'excuse par avance pour la voix de Jeanne Moreau que j'ai ce soir, mais je vais faire avec. Axel, j'aimerais savoir s'il n'est pas aussi intéressant d'avoir peur du loup. Est-ce que ça n'a pas des vertus pour les enfants que nous avons été, que nous sommes peut-être encore un peu ?
Je pense que la peur n'évite pas le danger et qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur pour se protéger, qu'en ayant conscience du danger, même en bas âge, je pense qu'avec des explications suffisantes, on peut se méfier sans avoir la peur qu'on raconte dans les contes.
Merci.
Adrien ?
Oui,
est-ce
bonjour.
Que tu pourrais me citer différentes expressions avec le terme loup ?
Différentes expressions, bien sûr. Donc j'ai déjà cité « l'homme est un loup pour l'homme », qui signifie que, comme Axel l'a souligné, le deuxième animal qui tue le plus d'hommes dans le monde, ça reste quand même l'être humain. L'être humain est quand même un animal très cruel aussi. Mais il n'en reste que néanmoins, ce dont je voulais parler, c'est le concept de loup. C'est-à-dire que, justement, quand on parlait... Je suis désolé, je digresse un peu, je vais revenir aux expressions juste après. Quand on parle de chiens, d'attaques de chiens. Le chien, d'ailleurs, qui, je le rappelle, est quand même un animal extrêmement proche du loup. On parle souvent d'attaques de chiens errants, de chiens qui redeviennent un peu à l'état sauvage, donc qui la rapprochent encore plus du loup. Souvent, des attaques qui ont lieu à la nuit tombée, à l'heure du loup, entre chien et loup, pour vous donner quelques expressions, si je puis me permettre. Ce sont des animaux qui regagnent leur forme la plus primaire et la plus cruelle, leur essence même. Bien sûr qu'il y a des animaux qui arrivent à transcender leurs conditions, tout comme il y a des humains, tous les humains ne sont pas mauvais. Il en reste néanmoins que la nature même du loup est selon moi un être très mauvais. Pour en revenir aux expressions, donc j'en ai déjà donné deux. Il doit y avoir d'autres expressions avec le chien et le loup, mais il n'y en a pas qui me viennent d'autres à l'esprit pour l'instant. Je suis désolé.
Quand tu as très faim.
Ah, une faim de loup, oui, bien sûr. J'ai bien mangé ce midi, c'est pour ça.
Mais d'ailleurs, à propos d'appétit, est-ce que il n'y a pas une frénésie meurtrière chez le loup ?
Ah ben, bien sûr, c'est un peu ce que je condamne. Néanmoins, même s'il y a une forme de frénésie meurtrière, elle reste tout de même préméditée. On ne voit pas les loups se jeter sur les barrières qui protègent les agneaux alors qu'ils sont incapables de les égorger. Il y a quand même une volonté derrière. Ce n'est pas uniquement une folie. Il y a bien sûr un désir profond chez le loup, cet instinct animal de tuer. Néanmoins, il reste aussi une réflexion. C'est pour ça que, pour moi, le loup est doublement mauvais. Pas seulement l'animal, hein. Encore une fois, je parle aussi du concept en général de loup. C'est à la fois le mélange de folie meurtrière et de réflexion très froide sur la nature des choses et comment arriver à ses fins. Et je ne parle pas de fin de loup.
Et puis enfin, avec le loup, quel est le plus dangereux ? Le loup solitaire ou la meute ?
Ah ben ça, c'est...
Parce que finalement, un loup solitaire, est-il vraiment dangereux ?
Un loup solitaire, c'est un danger, déjà. Pour moi, un loup solitaire. Mais les loups sont rarement seuls, comme vous l'avez souligné. Il me semble qu'un loup seul, c'est un danger, mais qui se sait seul. Le loup, je l'ai dit, il est certes doté d'une frénésie meurtrière, mais il est aussi conscient de ses actes et conscient de ses limites. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut le stopper. Vous avez parlé de le tuer, néanmoins on est dans un procès, on n'est pas obligé de tuer le loup pour l'empêcher de commettre des mauvaises actions. Il me semble que la peine de mort a été abolie en France. Bien sûr que c'est un moyen de stopper ses méfaits. Ce n'est pas non plus la seule action qu'on peut entreprendre. Nous sommes des êtres civilisés. Après tout, nous sommes élevés. Pour en revenir à la question, la meute... Là, je dirais que là où le loup solitaire peut finalement trouver une forme de rédemption, comme elle l'a dit, séparer les individus de la masse, non seulement le problème, c'est que la masse devient un loup en elle-même. Elle devient sanguinaire. Elle devient encore plus dangereuse. Vous savez, c'est ce genre de groupe qui se motive entre eux. Il y a un élément qui entreprend une petite mauvaise action et un autre qui va renchérir et ainsi de suite. Donc oui, je pense que pour répondre clairement à votre question, c'est la meute qui me fait le plus peur.
Si je peux me permettre, comme tu l'as dit, les loups sont très rarement solitaires en réalité, contrairement à ce qu'on peut croire, puisque c'est un animal qui vit tout le temps en meute. Et les seuls cas où les loups peuvent s'isoler de la meute, c'est... par exemple, les loups sont un animal qui est extrêmement fidèle et qui, dans toute leur vie, n'auront qu'une louve. Et si cette louve meurt, le loup, de tristesse, va s'isoler de la meute. Et donc, c'est rarement, à part ça, ou s'il est blessé ou qu'il ralentit le groupe. Mais sinon, c'est vrai que les loups sont rarement seuls. Après, tu parles de stopper sans tuer, mais peut-être lui mettre une laisse alors. Mais je me verrais mal promener un loup en laisse.
Non, je dis simplement qu'on n'est pas obligé d'éradiquer toute l'espèce. On peut réguler sa population. Et plutôt que que de dépenser des millions d'euros dans la protection du loup, comme le fait l'État français chaque année, on pourrait l'utiliser pour protéger d'autres espèces qui en ont plus besoin, plutôt que de faire plaisir à des pseudo-écologistes qui pensent qu'en protégeant le loup, on va sauver la planète. On pourrait dépenser cet argent dans des causes qui en ont réellement besoin.
Je ne crois pas que protéger le loup sauverait la planète, mais c'est un principe. Je pense que c'est totalement immoral de supprimer une espèce. Enfin, de stopper une espèce, pour le coup.
Et le loup n'est pas en danger, hein.
Mais si on le stoppe, du coup...
On l'empêche de causer des dégâts. C'est pas une bonne chose. Vous voulez pas empêcher de causer des dégâts. Vous voulez pas empêcher les suicides des agriculteurs.
Je pense que le problème n'est pas le loup. Le problème est qu'on crée les conditions pour que ça se passe mal. Parce que si la réintroduction du loup s'était faite de manière raisonnée et qu'il avait assez de nourriture dans son milieu naturel, le loup n'irait pas attaquer les bergers et les agneaux.
Et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas assez de nourriture dans son milieu naturel, du coup?
Mais pourquoi est-ce qu'il va attaquer les agneaux et les troupeaux, alors?
Parce que c'est un animal sanguinaire.
Donc l'instinct n'est pas condamnable.
Pourquoi l'instinct serait pas condamnable? Si vous me dites que vous tuez quelqu'un par instinct, si vous me dites « Oh oui, non, mais lui, c'est mon instinct qui m'a dit de le tuer », on va vous condamner, on va vous mettre en prison.
Tout à fait.
De la même manière, si le loup, par instinct, tue des brebis, parce que c'est ce qu'il voit comme nourriture, eh ben on est en droit de se dire qu'il faudrait réguler ses actions.
Je pense que la différence entre l'homme et l'animal, c'est une base, c'est la conscience. Mmh. Et donc, l'homme ne peut pas justifier un acte par l'instinct, puisqu'il est censé être conscient de ses actes.
Donc le loup est inconscient.
Un animal ne possède pas la conscience.
Donc c'est une bête sans raison. Si c'est une bête sans raison, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on devrait lui accorder un procès et la considérer exactement comme un être humain? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de simplement supprimer ceux qui gênent notre développement et surtout qui gênent la vie humaine? Est-ce que pour vous, la vie de quelques loups sans raison a plus d'importance que la vie d'êtres humains qui en dépendent réellement et qui ont de l'affection pour leur troupeau?
Je ne crois pas qu'on parle de la vie de quelques loups, puisqu'on parle d'une espèce, donc...
Comme je l'ai dit, on ne parle pas de supprimer l'espèce, simplement de la réguler. Enfin bon, c'est une question d'ouverture. Moi, je dis ça, chacun peut se forger son avis. J'en laisserai les jurés décider.
Sur la régulation du nombre de loups?
Sur le loup.
Sur le loup.
Merci Axel et merci Adrien. Le jury maintenant va se retirer pour délibérer.
Merci.
Merci.
On vient de m'annoncer les résultats. J'en profite pour remercier les membres du jury qui se sont prêtés à ce concours pendant plusieurs séances, pendant toute la durée des éliminatoires jusqu'aux demi-finales et la finale ce soir, la grande finale ce soir. Précurseur du futur grand oral, donc je tiens à vous féliciter tous les deux car vous avez véritablement relevé le défi et été à la hauteur de l'exercice sur un thème... sur un thème qui nous a fait réviser nos classiques. Donc, un très grand merci. Alors, je crois savoir que les résultats se sont joués de manière très serrée. Et le gagnant est Adrien. Bravo. Bravo, Axel. Bravo, Adrien. Et j'ai l'honneur de te remettre, Adrien, le premier prix de la première génération du concours d'éloquence à maintenant, premier prix, avec donc un chèque cadeau à Cultura. Et quant à toi, Axel, eh bien, tu as, on a parlé, c'est couleur grise et médaille d'argent, hein, deuxième prix. Donc félicitations à toi, avec également une carte cadeau. Voilà, merci à tous les deux. J'en profite aussi pour remercier Aurélien, qui a, je crois, eu l'initiative, ou avec d'autres, en tout cas, est venu me présenter ce projet de concours d'éloquence qui m'a, je dois dire, séduit tout de suite. Et je crois que c'est une première, mais ce n'est pas une dernière. Nous allons continuer il sourit, il est content. Je crois qu'on va vraiment pouvoir continuer. Et grâce à vous, eh bien, on a bien lancé les choses pour l'avenir. Merci encore et bonne soirée. Merci.